J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Romains au chapitre 6. Romains 6. Romains 6. On va lire ce matin les versets 1 à 14 de Romains 6. Il y a 2 ans, peut-être vous vous rappelez, j'ai apporté une prédication dans Romains 6. Et puis, à ce moment-là, j'avais mis l'accent sur l'aspect du baptême et de l'importance du baptême dans la vie du croyant. Et ma prière, lorsque j'apportais ce message-là, c'était « Seigneur, je vois des jeunes qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas encore été baptisés. » Et puis, j'ai dit « Seigneur, j'aimerais savoir 5 jeunes. » Prendre position pour toi et manifester publiquement qu'ils t'appartiennent. Et on a vu plus que ça. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Parce que la parole de Dieu a eu son effet. Et aujourd'hui, on voit des jeunes ici qui servent dans l'Église, qui se sont identifiés à Jésus-Christ et qui ont décidé de vivre pour sa gloire. Et il y en a d'autres qui ont donné leur vie au Seigneur tout récemment. Et on attend de les voir passer encore une fois par les eaux du baptême pour s'identifier à Jésus-Christ. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Mais pourquoi je reviens avec Romains 6 ce matin? Une des raisons, c'est parce que notre pasteur Yannick nous a donné ce défi-là d'apporter la prédication dans Romains 6 pour qu'on puisse mieux comprendre comme Église les implications qu'on voit dans ce passage-là, pas seulement en vue du baptême, mais aussi pour la vie chrétienne. Et on va lire ensemble Romains 6, les versets 1 à 14. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. On va se courber ensemble dans un mot de prière. Seigneur, ce matin, on a pris ce repas que tu nous as laissé comme un mémorial de ta mort pour nous. Et Seigneur, mon cœur est rempli de joie, rempli de reconnaissance envers toi pour tout ce que tu as accompli. Encore une fois, Seigneur, dans ce passage, on voit la beauté de l'Évangile. Sous un autre aspect que celui de Romains 5, qu'on voit dans Romains 5. Et ce matin, on veut plonger nos regards, Seigneur, pour comprendre les merveilles de ta parole. Aller chercher et puiser les trésors qu'on peut trouver dans ce passage, Seigneur. Seigneur, à une première lecture, parfois ça peut sembler compliqué de saisir ce passage. Mais en prenant le temps d'aller mieux le comprendre, par l'illumination aussi que tu donnes par ton esprit pour qu'on puisse comprendre, on découvre des trésors, Seigneur, des trésors inestimables pour nos vies. Seigneur, je te remercie pour le privilège que j'ai eu cette semaine d'étudier ce passage et de l'approfondir davantage pour pouvoir enseigner ton Église et pouvoir l'appliquer premièrement à ma vie. Merci d'avoir touché mon cœur. Ma prière ce matin, Seigneur, c'est que tu puisses continuer de le toucher afin qu'il puisse être véritablement transformé pour toi. Et puisses-tu toucher le cœur des auditeurs aussi, Seigneur. Accorde-leur la paix de ton esprit ce matin, un cœur ouvert pour saisir combien l'amour que tu as eu pour nous a des implications aujourd'hui, en 2012. Et que nous puissions le vivre, Seigneur, le vivre, être vivant pour toi, pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Dans Romains 6, comme je disais, on va passer quelques dimanches sur ce passage-là. Notre pasteur Yannick étant en vacances, on commence ce matin une nouvelle série que j'ai appelée « Une nouvelle vie en Christ ». Et comme je disais, on va passer les 4 dimanches, en fait, il va y avoir les 3 prochains dimanches où je vais être ici pour apporter la prédication de la parole. Yannick va revenir pour la dernière semaine de août, et puis au début de septembre, je vais revenir pour aller dans Romains 8 et voir le travail de l'Esprit de Dieu, comment on peut vivre par l'Esprit de Dieu dans nos vies. Mais dans Romains 6, ce matin, on va regarder combien des réalités que Dieu a fait dans nos vies avec la mort de Christ et lorsque nous avons placé notre foi en lui. La vie chrétienne est une vie passionnante. Pour plusieurs chrétiens, c'est la réalité. De ce temps ici, vous vivez une vie passionnante avec le Seigneur, une relation intime avec lui. Vous êtes en feu, comme on pourrait dire. On a chanté tantôt, « Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. » Le Seigneur a placé son esprit en nous. Et c'est possible de vivre la vie chrétienne passionnante. Et chaque jour, compter sur le Seigneur et s'appuyer sur lui malgré les épreuves et vivre cette relation intime avec lui. Par contre, pour plusieurs chrétiens, c'est pas vraiment la réalité. Plusieurs chrétiens pour qui ça fait peut-être quelques mois ou même quelques années qu'ils appartiennent au Seigneur. La vie chrétienne ne semble plus aussi passionnante qu'elle était au début. Les beaux jours de ma relation avec le Seigneur, du début de ma relation avec le Seigneur, ce temps-là, pour moi, il est passé. Et aujourd'hui, ça ne fait plus une grande différence. Un peu comme des nouveaux mariés. On a des nouveaux mariés avec nous. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes ici ce matin? Oui. Stéphane, Annick, venez, levez-vous, on veut vous féliciter. Je pensais à vous, justement. C'est bon. Que Dieu vous bénisse. Je pensais à vous, justement, quand j'ai écrit ça. Je dis, c'est comme des nouveaux mariés. Ils viennent de se marier, ils sont sur un nuage, mon ami, là. Peut-être que déjà, ils ont rencontré des petites difficultés, s'adapter un petit peu. Mais au début, normalement, ça va bien. Il n'y a pas de problème. Et puis après quelques semaines, quelques mois, quelques années, les petites habitudes, mauvaises habitudes ou les péchés de l'autre commencent à nous affecter un peu plus. Et puis, on réagit à ça. Et puis, c'est pas aussi beau qu'avant. Et quand les difficultés arrivent, font face à la réalité, c'était plus vraiment ce que c'était comme au début. Un peu la même chose avec notre relation avec Dieu. Quand des péchés refont surface ou qu'on rencontre des difficultés dans notre vie, le premier amour qu'on avait, la vie passionnante qu'on avait au début, n'est plus là. Ça a changé. Et on peut se laisser décourager, se laisser aller avec ça et même perdre la foi que Dieu même peut nous aider à nous en sortir de certains péchés ou des choses, des épreuves qu'on peut vivre et douter de la puissance de Dieu dans nos vies. Mais dans cette série, Une nouvelle vie en Christ, j'aimerais qu'on puisse revenir ensemble à la source, à l'Évangile de Jésus-Christ que nous avons entendu lorsqu'on s'est converti à lui pour redécouvrir et approfondir ensemble combien cet Évangile-là, même après 30 ans de vie chrétienne, 20 ans, 10 ans, peut m'amener à vivre une vie passionnante avec Dieu, une véritable relation intime avec lui qui est vivante. Et je veux qu'on puisse regarder ensemble, sous différents angles. Et ce matin, dans Romains 6, on voit un angle assez spécial, important à saisir pour notre vie et qui va affecter nos vies aujourd'hui. Mon désir, c'est qu'on puisse être touché à nouveau par l'Évangile. L'Évangile qui nous a touchés au début de notre conversion, au début de notre vie chrétienne, puisse encore me toucher. Encore me saisir comme il m'a saisi au début. Et qu'on puisse vivre pleinement cette vie chrétienne passionnante. Comme je disais, la série va s'étaler sur 3 dimanches et ce matin, on va regarder ensemble deux aspects, deux réalités qu'on voit dans le passage. Donc, ça, c'était l'introduction à la série. On veut revenir à une vie chrétienne passionnante. Est-ce que c'est ça que vous voulez? J'espère. J'espère que c'est ça que vous voulez. Si vous êtes dans un désert spirituel présentement, un moment où votre vie spirituelle défaille, j'espère que vous allez retrouver la joie du Seigneur et vivre une vie passionnante avec le Seigneur à la suite de ça. Que Dieu puisse toucher nos cœurs, mon cœur et le vôtre à travers ça. Mais dans le passage de ce matin, on voit 2 réalités importantes qu'on doit comprendre comme croyants. Pour plusieurs, c'est des éléments qu'on connaît déjà. La connaissance, on l'a après plusieurs années de vie chrétienne. On a lu ces passages-là, on l'a entendu prêcher peut-être plusieurs fois même, et puis on connaît tout ça. Mais que ça puisse réellement avoir des implications dans nos vies, là où nous sommes présentement, parce que la vie nouvelle en Christ, ce n'est pas une vie nouvelle qui a commencé, c'est une vie nouvelle qui commence toujours, est toujours nouvelle cette vie-là, et c'est une vie passionnante. Et dans ce passage, on voit que Paul poursuit, entre autres, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, poursuit l'argument qu'il avait commencé dans Romains 5, et pour faire un bref survol du début de l'Épître aux Romains, juste pour vous indiquer les grandes lignes, pour voir où ce passage-là s'inscrit dans l'Épître. Premièrement, Paul commence les chapitres 1 à 3 en démontrant que tous les hommes, sans exception, sont pécheurs, sont perdus. Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et c'est ce qu'il a construit de chapitre 1 à 3 en démontrant que tous les hommes, peu importe leur nationalité, s'ils sont dans Israël ou des Grecs ou des Juifs ou d'autres nations, tous les hommes devant Dieu sont pécheurs, perdus et privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Ensuite, il conclut, parce que 3, 23 suit après 23, il y a 24 aussi. Il y a quelque chose de spécial qui se passe. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Alors, il y a possibilité pour des pécheurs perdus de retrouver la grâce de Dieu par la foi. Et il va démontrer dans la fin du chapitre 3 et le chapitre 4, en disant qu'il est possible pour des hommes pécheurs d'être sauvés, d'être pardonnés de leurs péchés par la foi dans l'œuvre de Christ. Et ce n'est pas par d'autres moyens que seulement par la foi en Jésus-Christ qu'on peut être sauvé. Et il arrive dans le chapitre 5, comme on a vu tout à l'heure, il nous parle de la nouvelle relation, la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu que j'ai reçue en plaçant ma foi en Jésus-Christ. Et les chapitres 6 et 7 poursuivent en fait le discours, et Paul va commencer avec une question, on appelle ça une question rhétorique, une question qu'il soulève pour y répondre tout de suite. Après, qu'est-ce que ça va avoir comme effet, ça, le fait d'être justifié par la foi en Jésus-Christ, d'être rendu juste devant Dieu? Qu'est-ce que ça va avoir comme effet dans ma vie spirituelle, dans ma vie comme croyant maintenant? Alors, au début du chapitre 6, comme je disais, il énonce une question, et Paul commence à parler de les effets de la justification dans la vie chrétienne. Et puis, il énonce au début du chapitre 6, et au verset 11, 2 réalités, qui en est une, mais peut-être 2, je pourrais dire 2 caractéristiques de la nouvelle réalité, de la nouvelle vie en Christ. Il dit au verset 11, « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » 2 réalités, caractéristiques d'une nouvelle réalité, mort au péché, vivant pour Dieu. Et c'est les 2 aspects qu'on va regarder ensemble. Et ce matin, spécifiquement, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire d'être mort au péché. Et la semaine prochaine, on va se concentrer sur vivant pour Dieu. Alors, cette nouvelle réalité a 2 caractéristiques. Je suis mort au péché, je suis vivant pour Dieu. Et on va regarder ensemble ce matin un petit peu plus qu'est-ce que ça signifie d'être mort au péché. Le texte dit que par notre union à Jésus-Christ, nous sommes morts au péché et nous sommes libérés du pouvoir du péché dans nos vies. Et ça, c'est le point principal du message de ce matin qu'on va regarder ensemble. Par notre union à Jésus-Christ, on est mort au péché et libéré du pouvoir du péché dans nos vies. Mais trois questions sont soulevées ici. Qu'est-ce que Christ a accompli par sa mort et sa résurrection pour qu'on puisse être mort au péché et être libéré du péché? Qu'est-ce que Christ a fait? On va le voir ensemble. Deuxième question, comment est-ce qu'on peut s'approprier réellement ce que Christ a accompli pour qu'on puisse être réellement mort au péché? Donc, Christ a accompli quelque chose. Pendant longtemps, pas très longtemps pour moi, mais pendant longtemps dans la vie de plusieurs ici, c'était une réalité qui était distante. Mais à un moment donné, vous vous êtes approprié cette réalité-là. Et comment on s'approprie cela? Entre autres, on va le voir par la conversion, mais aussi par chaque jour. Comment on peut s'approprier ce que Christ a accompli? Et finalement, quelles sont les implications dans ma vie de tous les jours de la liberté que procure la foi en Jésus-Christ? Alors, j'ai lancé trois grandes questions. Et on va y aller avec la première. Qu'est-ce que Christ a accompli par sa mort et sa résurrection pour qu'on puisse être mort au péché? La réponse, c'est que Jésus-Christ a obtenu la victoire sur le pouvoir du péché. Christ a obtenu la victoire sur le pouvoir du péché. On voit ça dans les versets 8 à 10. On va aller un petit peu plus loin. En fait, Paul va donner des raisons et mon but, comme je l'ai dit, c'est de construire pour en arriver à savoir c'est quoi l'implication dans ma vie aujourd'hui. Donc, on commence. Qu'est-ce que Christ a accompli? Comment je me l'approprie? Et après ça, comment je vais le vivre? Christ a accompli quelque chose? Christ a obtenu la victoire sur le péché, verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Pourquoi? Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc, Jésus-Christ est mort pour le péché. Il est mort pour le péché. Et une des choses qu'on voit dans Romains, et pour bien comprendre le passage dans Romains 6, j'aimerais qu'on puisse aller voir un petit peu Romains 5 encore et qu'on regarde les versets 6 à 11. Jésus-Christ a obtenu la victoire sur le péché. Comment? Il est mort pour nous donner la paix avec Dieu afin qu'on puisse être justifié, rendu juste devant Dieu. Donc, paraître juste devant Dieu et nous donner la paix avec Dieu. On voit ça dans les versets 6 à 11, entre autres. Qu'est-ce que Christ a fait? Versets 6 à 8, pour commencer. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, Christ est mort à notre place. Christ est mort pour nous. Et il est venu pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et c'est pour nos péchés que Christ est mort sur la croix. Il a manifesté l'amour de Dieu envers des pécheurs qui étaient séparés de Dieu pour les ramener à Dieu dans une relation intime avec Dieu et les faire paraître justes et saints devant lui. Et c'est ce que Christ a fait. Il est mort pour les péchés, pour que nos péchés soient effacés. Et Christ s'est offert, pas pour ses propres péchés à lui, mais pour prendre la condamnation que nous méritions. Christ s'est offert pour prendre notre place. Maintenant, par la foi dans l'œuvre de Christ, nous sommes justifiés et sauvés de la condamnation, verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir. Par la foi dans le sang de Christ, on peut maintenant paraître juste devant Dieu, paraître saint. La colère de Dieu à cause de nos péchés ne repose plus sur nous. La colère de Dieu a été apaisée et nous sommes sauvés de la condamnation que méritait le péché. Et donc, Christ est mort à notre place et par l'œuvre de Christ, on est justifié et sauvé de la condamnation et de la colère. Et par la foi dans l'œuvre de Christ, non seulement Christ est mort à ma place, Non seulement je suis justifié, mais maintenant j'ai une relation avec Dieu. J'ai été réconcilié avec Dieu, versets 10 et 11. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous qui étions des ennemis de Dieu, nous avons maintenant la paix avec Dieu. Dieu a voulu réconcilier le monde avec lui-même. Il a donné son Fils en sacrifice pour le péché, pour que lorsqu'on place notre foi en lui, on puisse recevoir la réconciliation avec Dieu. Et maintenant, nous avons le bénéfice de pouvoir nous approcher de Dieu. Dans Éphésiens 3, au verset 12, je vais simplement vous le lire rapidement. On voit ce bénéfice que nous avons en Christ, Éphésiens 3, 12, en lui, en Jésus-Christ, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et la réconciliation avec Dieu, ce que Christ a acquis à la croix, c'est une relation intime maintenant. Je peux m'approcher de Dieu avec confiance. Avant, je ne pouvais pas. Parce que si je m'approchais de lui, je méritais la condamnation. Si je m'étais présenté devant Dieu avec mon péché, je serais mort drette là, comme on dit. En bon québécois, drette là. Mais à cause de la réconciliation que j'ai en Jésus-Christ, maintenant, je peux m'approcher de lui avec confiance. C'était pour vous mettre un petit peu dans le contexte, puis arriver à Romains 6, parce que le point de Romains 6 est construit sur ce que Paul a établi dans Romains 5. Maintenant que je suis rendu juste par la foi en Jésus-Christ, si je suis rendu juste devant Dieu, je suis pardonné de mes péchés, je suis libéré du péché, il n'y a plus de condamnation qui repose sur moi. Est-ce que ça me donne le droit de demeurer dans le péché? C'est ça la question que Paul pose au verset 1. Maintenant que j'ai la foi et que je parais juste devant Dieu, est-ce que ce n'est pas là un prétexte pour continuer à pécher? Et c'est important ça. Parce que si je suis justifié par la foi, est-ce que c'est complet tout ça? La justification par la foi, est-ce que ça n'implique pas quelque chose où je dois le démontrer justement que je suis justifié, que je suis réconcilié avec Dieu? Romains 6 va répondre à cette question-là parce que non seulement Jésus est mort pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés et que nous soyons réconciliés avec Dieu, mais comme je l'ai dit au début, Jésus-Christ est mort afin d'anéantir le pouvoir du péché dans nos vies. Pour faire une distinction dans Romains 6, Paul, on voit l'aspect du péché, on voit souvent le péché au singulier. Et qu'est-ce que Paul veut exprimer par là? Il veut exprimer le pouvoir du péché. Non pas les péchés que je commets chaque jour. Par exemple, je peux mentir, je peux voler, je peux me mettre en colère, je peux faire toutes sortes de choses, désobéir aux commandements de Dieu en posant des actions ou en ayant des mauvaises pensées. Ce sont des péchés. Mais ce que Paul adresse maintenant... Christ est mort pour nos péchés, non seulement pour nos péchés, mais pour le péché. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Christ est mort pour anéantir le pouvoir du péché dans nos vies. Encore une fois, Romains 5 va nous aider à comprendre un petit peu. Qu'est-ce que je veux dire par là qu'il y avait le pouvoir du péché dans nos vies? Je commets des péchés parce que je suis sous un pouvoir. Et lorsque je suis sans Christ, je suis constamment sous ce pouvoir-là, le pouvoir du péché dans ma vie. Et d'où me vient dans ma vie le pouvoir du péché? Comment il a été établi? C'est parce que je suis né en Adam. Et on voit ça à la fin de Romains 5. Romains 5 exprime « à cause d'Adam ». J'ai hérité non seulement de nature pécheresse qui me pousse vers le péché, mais j'ai hérité aussi de l'autorité du péché dans ma vie. Le péché exerce un pouvoir sur moi duquel je dois être libéré. En Adam, je suis sous le pouvoir du péché. Romains 5, verset, un petit peu le verset 16, mais au milieu du verset, on lit « Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. » Verset 17, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. » Et ensuite, verset 18, ça dit, « Comme une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. » Il parle de l'offense d'Adam. Lorsque Adam a péché, il a été condamné. Il a été placé sous le pouvoir du péché. Et moi, en étant un descendant d'Adam, j'hérite de cette condamnation-là et du pouvoir du péché sur ma vie. Et donc, tout être humain qui naît est sous le pouvoir du péché, qui le pousse à pécher et qui démontre la rébellion envers Dieu. C'est ce que Paul exprime à la fin de Romains 5. Et maintenant, lorsqu'on dit que Christ est mort pour le péché, c'est que Christ est venu anéantir le pouvoir que le péché avait sur moi, que j'avais hérité d'Adam. Comme j'ai dit, Christ n'a pas péché lui-même, mais il est né comme un homme, en Adam lui-même, pour devenir, sans nécessairement le pouvoir du péché qui régnait sur lui, ça reste quand même à réfléchir. Mettez ça de côté, ce que je viens de dire. Mais il est né en Adam, sous la loi, Galates va nous dire, sous la loi, pour être un deuxième Adam qui obéit parfaitement à la loi et qui devient un deuxième Adam dans lequel je peux naître de nouveau et être libéré du pouvoir de la mort et du péché qui reposait sur moi. Je sens que c'est compliqué un petit peu pour ce matin. J'espère que vous me suivez, OK? Mais quand même, j'essaie d'exprimer qu'est-ce que la réalité. En Adam, j'ai hérité du pouvoir du péché dans ma vie. Christ est né en Adam, a obéi parfaitement à la loi, a été tenté comme nous, on a été tenté. S'est donné, est mort pour le péché. Il est ressuscité et par cette œuvre-là, il a vaincu le pouvoir de la mort et du péché. Il est devenu un deuxième Adam à laquelle je peux m'identifier pour être moi aussi délivré du pouvoir du péché dans ma vie. On va voir ça ensemble un peu plus en détail. Mais Christ a subi le châtiment que le péché méritait afin de briser le pouvoir du péché. Le péché conduit à la mort. Et puis, pour briser le pouvoir de la mort et du péché, en étant le deuxième Adam, Christ devait recevoir la condamnation à ma place, à notre place, pour briser le pouvoir du péché et nous donner la vie. Christ est mort, mais aussi il est ressuscité, une fois pour toutes, et ainsi le péché n'a plus de pouvoir sur lui, verset 10 du chapitre 6. Il dit, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Maintenant, il a anéanti le pouvoir du péché. La fin du verset 9 dit, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et par sa mort, par sa résurrection, Christ est venu anéantir le pouvoir du péché. Et puis maintenant, on peut être libéré du pouvoir du péché, de la mort et du péché dans nos vies. C'est bon, on avance. Seul Jésus-Christ, puis là, je veux juste faire un point ici d'application un petit peu. Seul Jésus-Christ a accompli ce qu'il fallait pour me libérer du péché et de la mort. J'ai discuté avec, ça a donné que c'était des coiffeurs, un coiffeur et une coiffeuse. Les deux dernières fois, j'allais me faire couper les cheveux. Et puis, évidemment, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh boy, la porte pour commencer à jaser. Ben, je suis pasteur. Ah, ouais, peut-être vous trouvez ça bizarre pour un jeune homme comme moi, hein? Ouais. Puis on commence à jaser. Et puis on parle de l'Évangile, lorsqu'ils me le permettent. Des fois, la conversation, OK, c'est beau. Tu sais, quand on passe à d'autres choses. Mais des fois, on profite d'une porte ouverte pour en parler un petit peu. Et une des discussions que j'avais avec ces deux personnes-là, c'est qu'ils disaient qu'il y a du bon dans chaque religion. Et une de ces personnes-là, entre autres, disait, moi, je pense qu'il y a du bon dans chaque religion, fait que je prends ce qui me plaît, puis je me forme ma propre religion. En fait, il y a le buffet des religions devant moi, puis je choisis ce que ça me tente, puis ça fait mon affaire. Il y a un problème avec ça. Parce que le péché est une réalité dans ma vie. Et Dieu est vivant, Dieu est vrai, puis un jour, je vais avoir à me présenter devant lui. Quel autre que Jésus-Christ a accompli ce qu'il fallait et ce que Dieu a approuvé pour que je puisse être libéré du péché, libéré du pouvoir du péché dans ma vie? Personne. Personne d'autre que Jésus-Christ. Et c'est pour ça que la foi en Jésus-Christ est absolument nécessaire pour pouvoir être pardonné de nos péchés et pouvoir être libéré du péché. J'ai un problème, j'hérite en Adam du pouvoir du péché. Il n'y a rien d'autre qui va pouvoir me libérer que la foi dans le sacrifice de Christ. Parce que lui a accompli ce qu'il fallait pour anéantir le pouvoir de la mort et du péché. Seul Jésus-Christ a accompli par sa mort et sa résurrection ce qui était acceptable aux yeux de Dieu pour me délivrer de la mort et du péché. Maintenant, je sonne un petit peu, comme on dit en théologie, exclusiviste. Des fois, on peut se faire présenter une idée comme, ben moi, je pense qu'un bon un bouddhiste qui est fervent, qui est sincère, Dieu va le pardonner quand même. Je crois pas ça. Et je suis loin de croire ça. Pourquoi? Parce que c'est juste Jésus-Christ qui anéantit le pouvoir de la mort et du péché, qui accorde le pardon des péchés. Et c'est nécessaire de placer notre foi en Jésus-Christ pour être pardonné. Il n'y a pas d'autre solution. Jésus-Christ est le seul bon remède au problème du péché dans notre vie qui nous domine et qui nous condamne. Maintenant qu'on comprend mieux ce que Christ a accompli pour nous, on peut voir ensemble comment ça fonctionne pour nous. Comment est-ce qu'on peut s'approprier réellement ce que Christ a accompli pour nous pour qu'on soit libéré du péché? Paul va, dans les versets 3 à 7 du chapitre 6, aborder l'idée du baptême et de l'identification à Jésus-Christ. Et la réponse à ça, c'est comment je me l'approprie? C'est par le baptême. Nous avons été unis à Christ qui nous rend libres du péché. Donc, Christ est mort pour nous libérer. Qu'est-ce que je dois faire? Être baptisé? On va voir qu'est-ce que ça veut dire pour tout ça. Mais par le baptême, je m'unis à Jésus-Christ et je suis libéré de la mort et du péché. Et ici, on comprend dans le passage que Paul parle pas seulement du baptême. Il parle de tout ce qui implique le baptême. Le baptême implique une conversion. Et puis, c'était rare au temps biblique d'avoir des chrétiens qui n'avaient pas été baptisés. Aujourd'hui, on le vit différemment un petit peu. Notre contexte, notre culture d'église peut-être, mais souvent au temps biblique, on se convertissait puis on se faisait baptiser immédiatement. Et on démontrait par le baptême notre union à Jésus-Christ. Et ici, je crois que Paul parle du baptême en incluant aussi la conversion. Et je veux faire la distinction avec une théologie catholique qui dirait que par le baptême, je suis purifié du péché originel. C'est pas par le baptême. C'est par l'œuvre de Christ à la croix que je suis purifié. Et puis, ensuite de ça, la conversion à Jésus-Christ est comme inclus dans cette idée du baptême. Étant donné que, justement, comme je disais, les chrétiens, à cette époque-là, se convertissaient, se faisaient baptiser. Et donc, Paul va utiliser l'image du baptême, et on doit comprendre aussi conversion et baptême dans notre pensée baptiste, notre fonctionnement. Conversion et baptême. OK? Pour marquer le moment où on s'est donné à Jésus-Christ, on a exercé une foi consciente dans son œuvre pour nous sauver. C'est par la foi qu'on obtient les bénéfices acquis pour nous par Jésus-Christ. Et ça, c'est le point de Romains 5. Je ne contredis pas ça. C'est pas ce que Paul est en train de contredire non plus, que c'est comme le baptême qui fait que je suis sauvé. C'est la foi dans le sacrifice de Christ. Par cet acte de foi conscient, je m'approprie les bénéfices. Maintenant, le baptême et la conversion montrent une union à Jésus-Christ et c'est ce que Paul développe dans les versets 3 à 7. La foi sincère reconnaît que Christ seul peut sauver et mène au baptême et mène à l'identification à Jésus-Christ. Et donc, on voit dans le fond, dans les versets 3 à 7, cette identification-là à Jésus-Christ, comme il dit verset 3, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et puis, comment on a été baptisés dans sa mort? Et c'est là la dynamique, comment ça fonctionne. Christ est mort, là, 2000 ans. Et puis, je suis baptisé, là, je me convertis, je me fais baptiser, je suis uni à lui dans sa mort. Comment ça fonctionne? On a été uni à Christ dans trois aspects. Dans sa mort, son ensevelissement et la crucifixion, on voit ça dans les versets 4, 5 et 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui, ensevelis par le baptême en sa mort. Verset 5, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Et verset 6, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Et vous voyez, avec lui, avec lui, avec lui. Il y a une identification à Christ dans la mort. Ce que Christ a accompli il y a 2000 ans, on peut dire que ça, lorsque je place ma foi en Jésus-Christ, ça transcende le temps. Et lorsque je reconnais que sa mort, sa résurrection me sauve, je meurs comme Christ est mort pour le péché. Je meurs au péché et je ressuscite pour une nouvelle vie en Christ. Et ce que Christ a accompli s'applique à moi maintenant. Que maintenant, je m'identifie à ce deuxième Adam, ce deuxième qui a paru pour que je puisse me placer sous lui maintenant et recevoir le pardon de mes péchés, mais aussi la victoire sur le péché. Et que l'autorité du péché dans ma vie puisse être complètement anéantie et que je puisse être libre du péché. Et donc, lorsque je me convertis à Jésus-Christ, que je suis baptisé, je deviens uni à lui dans la mort qui le subite et je m'identifie à ce deuxième Adam et le vieil homme qui est celui qui existait en Adam est crucifié avec Christ et revient à la vie sous le deuxième Adam où le pouvoir du péché est anéanti. C'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. Quand on découvre ça, wow, toute une réalité. Maintenant, nous sommes unis à lui dans sa résurrection, on est unis à lui afin de marcher dans une nouvelle vie en Christ. J'ai été uni à lui dans sa mort, mais je suis uni aussi à lui dans sa résurrection. Et lors d'une conversion, on ressuscite pour la vie éternelle. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, l'union avec Christ provoque une transformation radicale dans ma relation avec le pouvoir du péché dans ma vie. Donc, lorsque je me convertis, je me fais baptiser, je m'identifie à Jésus-Christ par la foi et que j'exerce publiquement cette foi-là et qu'il y a des fruits qui en découlent, je montre que je suis uni avec Christ et ça provoque une transformation dans ma relation avec le pouvoir que le péché avait dans ma vie. On n'est plus maintenant sous le pouvoir du péché parce qu'on a été libéré du péché dans notre union à Christ. En étant unis à Christ, on s'approprie la victoire que Christ a acquise pour nous. Il a vaincu la mort, le pouvoir de la mort et du péché. Et lorsque je m'identifie à lui, je m'approprie cette victoire-là pour anéantir le pouvoir du péché dans ma vie. Ainsi, la véritable conversion produit non seulement la justification, le fait de paraître juste devant Dieu, mais ça provoque aussi la sanctification. Et c'est le point dans Romains 6. Il y a une transformation qui se passe. Je ne suis pas juste pardonné de mes péchés puis paraît saint immédiatement. Il y a le pouvoir de péché qui est anéanti et ça provoque la sanctification dans ma vie. Et la véritable foi, la véritable justification devant Dieu ne produit pas seulement le fait de me réconcilier avec Dieu, mais produit aussi la sanctification, me transforme parce que je ne suis plus sous le pouvoir du péché. Et la sanctification, c'est le fruit de ma justification. Et là, je vais juste vous amener dans le verset 22 du chapitre 6 pour vous mentionner cet aspect-là. Maintenant, étant affranchi du péché, en étant pardonné de nos péchés, puis affranchi veut dire aussi libéré du pouvoir du péché dans nos vies, et que nous sommes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et donc, lorsque le péché est anéanti, le pouvoir du péché est anéanti dans ma vie, ça provoque la sainteté. Ça provoque que ma justification porte du fruit. En étant unis à Christ, la mort et le péché n'ont plus de pouvoir sur nous. Nous sommes libres du pouvoir du péché. Si on revient à la question de Paul, je pense qu'on y a répondu à travers cette exposition-là. La question de Paul posée au verset 1. Allons-nous demeurer dans le péché pour que la grâce abonde? Est-ce qu'on va continuer de demeurer dans le péché une fois que j'ai été justifié? La réponse, c'est, comme Paul dit, loin de là, non! Non! Je ne vais pas continuer à demeurer dans le péché. Pourquoi? Parce qu'un chrétien qui a été uni à Christ et qui est maintenant libre du péché, libre du pouvoir du péché, ne peut pas continuer à vivre dans le péché. C'est impossible. Le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Parce que Christ a acquis cette victoire-là. Je suis libéré du péché. Christ a obtenu la victoire, puis en étant uni à lui, je suis mort au péché, je suis libre du péché. Et la mort, le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Des fois, je comprends, là, je vais venir faire l'avocat du diable dans pas très longtemps, OK? Parce que je sais que vous êtes péché encore, vous péchez encore des fois. Puis ça ne veut pas dire, on va y arriver. On est libre du péché, c'est ça mon point ici. Verset 7, car celui qui est mort, identifié à Christ, est libre du péché. Et donc le pouvoir du péché, le péché n'exerce plus son pouvoir comme avant dans sa vie. Donc, on va continuer. Je vais juste me retrouver.
Ça va aller mieux.
OK. Là, j'en viens justement. Est-ce que ça veut dire que je suis déjà rendu parfait ou que je ne serai jamais tenté et que je ne commettrai jamais de péché? C'est pas ça que Paul est en train de dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment plus sous l'autorité du péché, mais l'influence du péché est toujours là. Je suis libéré du pouvoir que le péché exerçait dans ma vie, dans le sens que sous l'emprise du péché, je déplaisais à Dieu, je faisais rien qui plaisait à Dieu, je ne glorifiais pas Dieu par ma vie et je péchais sans être libre de faire autrement. Je péchais tout le temps. Maintenant, Christ anéantit le pouvoir du péché sur moi et c'est possible maintenant de glorifier Dieu. Mais l'influence du péché est toujours là. Parce que la délivrance finale va arriver à la fin. Je vais être rendu parfait au retour de Christ lorsque je vais être dans sa présence. Mais en attendant, l'influence du péché est toujours là. Et entre autres, Paul va l'aborder aussi dans le verset 12 en disant que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel parce que le péché va vouloir revenir prendre l'autorité dans ma vie. Il ne faut pas qu'il règne. Et j'ai le pouvoir maintenant, par Jésus-Christ, de chasser son autorité de ma vie pour qu'il ne règne plus en moi. Et en fait, il faut continuer quand même à faire des efforts pour renoncer au péché, car il cherche à régner en nous. Mais Christ a eu la victoire et par Christ, je peux avoir la victoire. Et c'est ça l'espérance qu'on a en Christ. On est libéré entièrement du pouvoir du péché et on peut renoncer maintenant au péché. Maintenant, c'est quoi les implications dans ma vie de tous les jours de la liberté que procure la foi en Jésus-Christ? Libre du péché, comme Paul a dit, nous ne demeurons pas dans le péché. La grâce abondante de Dieu n'est pas un prétexte pour continuer à vivre dans le péché. Parce que on est tenté parfois. Pas juste tenté, mais tenté de dire « Dieu va me pardonner ça. » Et lorsqu'une tentation vient, puis qu'on n'applique pas les efforts par l'Esprit de Dieu d'y résister, je peux être tenté de dire « Bon, on va y aller, on va commettre ce péché-là. De toute façon, Dieu va me pardonner. » Et ça, c'est vraiment pas ce que Paul est en train d'enseigner ici, parce qu'il enseigne justement que le péché ne règne pas. On peut diminuer la gravité du péché parce que Dieu me pardonne. Mais c'est important, frères et sœurs, de s'examiner. Est-ce que je suis présentement dans un... J'ai le mot « pattern » en tête, mais c'est pas le bon mot français, mais... Je ne sais pas si Camille peut m'aider, mais en tout cas, un pattern dans ma vie où ce que je me laisse aller parce que la grâce de Dieu va me pardonner. Comment? Une habitude, peut-être. Je me laisse continuellement influencer par le péché et avec un faux raisonnement, tenter de dire « Dieu va me pardonner ça. Dieu est bon. Dieu me pardonne. » Puis c'est vrai. C'est vrai. C'est que si nous péchons, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Donc, si on pêche et qu'on le confesse, Dieu va nous pardonner de toute iniquité. Mais il faut examiner pour voir si on n'est pas en train de se justifier d'un péché dans notre vie, de continuer dans le péché. Suis-je en train, puis peut-être, c'est des questions à se poser, suis-je en train, d'une façon quelconque, d'abuser de la grâce de Dieu dans ma vie, plutôt que de vivre dans la célébration de la grâce de Dieu pour moi? Est-ce que je suis en train d'abuser de sa grâce en me justifiant de mon péché parce que Dieu va me pardonner après? Plutôt que de célébrer ce que Christ a accompli pour moi et de dire « J'ai la victoire sur le péché et je vais renoncer à ça et je vais vivre pour lui maintenant. » Célébrer la grâce de Dieu dans ma vie, c'est dire non au péché et vivre pour Dieu. La victoire, je veux juste, dans le fond, juste répéter la question. Suis-je en train d'une façon quelconque d'abuser de la grâce de Dieu plutôt que de vivre dans la célébration de la grâce de Dieu? En d'autres mots, est-ce que je me cache derrière la grâce de Dieu pour me donner la permission de pécher? On doit s'examiner parce que c'est subtil parfois. Ça m'arrive. Je suis tenté. Ça ne me tente pas de résister, de mettre les efforts par la force du Saint-Esprit en moi, de résister. Je le commets. Dieu va me pardonner. Il faut s'examiner, frères et sœurs. On peut se cacher derrière la grâce de Dieu, mais aussi, on peut adopter une espèce d'attitude défaitiste envers certains péchés dans ma vie. Lorsqu'on lutte avec un péché depuis un certain temps, il arrive qu'on tombe dans le péché. Des fois, on s'en sort. Ça va bien pendant un temps. Après ça, on retombe dans ce péché-là. Et ça nous accable. On est tanné de lutter avec ça. On demande au Seigneur son aide, mais on dirait que ça ne marche pas. Ça vous arrive certainement. On lutte tout avec des péchés, l'influence du péché dans nos vies. Mais le danger pour nous, c'est d'adopter une attitude défaitiste dans le sens où je lutte avec ça depuis des années, je ne m'en sortirai jamais. Ce n'est pas ce que le texte nous enseigne ce matin. Mort au péché veut dire que j'ai la victoire. Puis on a besoin de se rappeler que Christ a acquis la victoire pour nous et que c'est possible de vaincre, non par mes propres forces, mais en m'attendant à sa grâce. C'est possible de vaincre les péchés avec lesquels vous luttez de jour en jour en s'attendant à lui, en disant, peut-être en déclarant, « Christ, tu as eu la victoire sur le péché dans ma vie. Je suis tenté maintenant. Donne-moi la grâce de résister et de surmonter la tentation. Je veux célébrer ta grâce dans ma vie. » Pas adopter l'attitude défaitiste dans laquelle « je m'en sortirai jamais » puis on ne veut plus lutter. On lutte parce que Christ a vaincu. Ça, c'est une des implications. Et lorsqu'on adopte cette attitude défaitiste-là, c'est possible pour nous, quand on tombe, de se sentir accusé. Et c'est Satan qui est à l'œuvre. On se sent accusé et dépose sur nous le fardeau de la culpabilité. Tu pêches, tu dis, tu vois, t'es pas si bon que ça, finalement. T'es-tu un chrétien, toi, finalement? Et là, on regarde, on a péché, on se sent coupable, on se laisse accabler par ça. C'est possible d'être coupable d'avoir péché envers Dieu. Dans un sens, un péché, c'est la transgression de sa loi et je suis coupable du péché. Mais comme chrétien, dans mon nouvel état, en Christ, dans le deuxième Adam, Christ a vaincu. Et un péché ne change pas mon état. Je suis pardonné, je suis justifié. À la fin, je vais être délivré entièrement et puis je vais être dans sa présence. Ça ne change rien dans mon état d'être justifié d'avoir commis un péché comme chrétien. Mais c'est sûr que ça attriste le Saint-Esprit. Et parfois, la tristesse qui vient, ça c'est bon. Mais la culpabilité, elle, que je suis coupable, puis de se sentir coupable, je suis un bon à rien, je suis un pécheur, je m'en sortirai jamais, puis Satan t'accuse, es-tu vraiment chrétien, puis douter ton salut peut-être même à travers ça? C'est pas ça que Christ a accompli. Une tristesse selon Dieu, qu'est-ce que ça produit? 2 Corinthiens 7:10. Ça produit la repentance. Une tristesse selon Dieu amène à la repentance. Et oui, je peux attrister le Saint-Esprit. Oui, je peux me sentir coupable devant Dieu de lui avoir désobéi. Mais Christ a acquis la victoire. Je dois revenir à l'Évangile et dire, « Seigneur, tu as eu la victoire. Je te demande pardon. » Mais cette tristesse-là qui m'accable, je parle de... Il y a la culpabilité, mais il y a aussi la tristesse qui est dans mon cœur. Je veux me repentir de ça. Je veux te demander pardon, Seigneur. Je veux te le confesser. Je veux grandir puis vivre dans la victoire que Christ a acquis pour moi à la croix. C'est important de ne pas rester dans la culpabilité. La culpabilité, ça mène à rien, ça mène juste des remords, on pense à la condamnation. Une tristesse, selon Dieu, produit la repentance. Donc, si tu vis ça, une tristesse, à cause que tu as péché, repends-toi, demande la grâce de Dieu pour lutter contre le péché et le surmonter la prochaine fois. Donc, il faut s'approprier la victoire du péché, sur le péché, et vivre dans la grâce de Dieu pour obéir à sa parole. Dernier aspect de l'implication, en terminant, changer ma vision de moi-même en commençant et en terminant chaque jour avec l'Évangile. Je suis plus le même homme qu'avant. Avant, j'étais en Adam sous l'autorité du péché. Maintenant, je suis libéré du péché sous l'autorité de Christ. Et quand je dis de revenir à l'Évangile, revenir à Romains 6, plonger dans les Écritures pour me rappeler et apprécier davantage ce que Christ a accompli, la grâce de Dieu envers moi, ce que j'étais face à Dieu avant, un pécheur perdu sans espoir, et ce que Christ a accompli par amour pour moi pour que je puisse être pardonné et libéré du péché. J'ai besoin de revenir là, régulièrement. Chaque matin, je me lève, je replonge mes regards dans l'Évangile pour l'approfondir ma compréhension et m'approprier ce que Christ a accompli pour moi, pour justement surmonter le péché et dire, Seigneur, tu as eu la victoire sur le péché, en m'unissant à toi par la foi, tu me l'as donné, maintenant je veux vivre pour toi aujourd'hui, permets-moi de vivre dans ta grâce pour que je puisse pas obéir à l'influence du péché, mais par ta force le surmonter. Plonger, s'approprier les vérités de l'Évangile. On est des enfants de Dieu, il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Puis si Dieu est pour nous, il n'y a personne contre nous. Même pas le diable. Dieu est avec moi et me donne la force d'obéir à sa parole et de le glorifier. Donc, ce que je dois faire, c'est puiser dans la grâce de Dieu pour vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Prier que le Seigneur me garde de tomber dans la tentation et qu'il me délivre du malin. Vous connaissez le Notre Père? C'est pas pour rien que Jésus a donné cette prière-là. Priez-la. Garde-moi du malin. Ne permets pas que je tombe en tentation aujourd'hui parce que tu m'as délivré de ça. Puis je veux te glorifier. Faire des efforts par la force qui me vient de l'Esprit de Dieu pour lui obéir. Et célébrer la grâce de Dieu envers moi par une vie transformée à l'image du Seigneur. Par notre union à Jésus-Christ, nous sommes morts au péché et nous avons la grâce d'être libérés du pouvoir du péché dans nos vies. Ce n'est pas une option, c'est une réalité. On est réconcilié avec Dieu, le péché n'a plus de pouvoir sur nous et nous pouvons vivre pleinement cette vie nouvelle en Christ. Notre délivrance est certaine, mais on doit toujours continuer à lutter. Et par sa grâce, nous sommes maintenant libres du péché et nous pouvons avoir la victoire. Gloire à Dieu. Que Dieu nous donne la force par son esprit de vivre comme mort au péché et comme vivant pour sa gloire. On va se courber ensemble. Seigneur Dieu, combien est grand, Seigneur, ce que tu as accompli à travers ton Fils à la croix. Ton Fils est mort, il a été enseveli, et par cette mort, nous avons été réconciliés avec toi. Mais nous avons aussi obtenu la victoire. Il a acquis pour nous la victoire sur la mort et le péché, afin qu'on puisse vivre pour toi. Seigneur, un jour, j'ai placé ma foi en toi. Tu m'as réconcilié avec toi. Tu m'as changé. Tu m'as donné une vie nouvelle de vivre en toi. J'ai besoin chaque jour, Seigneur, de me revoir comme mort au péché parce que je suis mort au péché à cause de ce que toi, tu as accompli. Aide-moi, Seigneur, à vivre dans ta grâce comme mort au péché. Et donne-moi, Seigneur, la victoire. Que je puisse, Seigneur, te glorifier, vivre pleinement pour toi, comme le Seigneur Jésus fait maintenant, qui est ressuscité, il vit pour toi. Je veux vivre pour toi. Seigneur Jésus, sois célébré, sois glorifié, parce que tu as vaincu la puissance de la mort et du péché, par ta mort et ta résurrection. Et on veut te louer pour ça. Que nos vies puissent te glorifier et être transformées par toi de jour en jour. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Thank you.
peut se lever. Bonne semaine.